Bien, j'espère. Alors, je vais vous poser des questions préliminaires d'abord. Je crois que vous trouverez que ce ne sont pas très difficiles. Depuis combien de temps, madame, habitez-vous Orléans?
J'habite Orléans depuis 10 ans, mais je suis orléanaise par mon père depuis plusieurs générations.
Et vous avez dit depuis 10 ans, qu'est-ce que vous a amené à vivre à Orléans?
Eh bien, parce que mon mari étant officier de carrière, j'ai circulé en France et même aux colonies, aux anciennes colonies. Et je suis revenue à sa retraite habiter Orléans.
Et vous vous plaisez à Orléans?
Oui, par bien des côtés, je me plais à Orléans. D'abord parce que j'y ai de la famille, ce qui est une attirance particulière. Et ensuite parce que c'est une ville où il y a tout de même beaucoup de ressources.
Et après vos séjours aux colonies et à l'étranger, est-ce que vous avez trouvé beaucoup de différences?
Oui, parce que c'était en Tunisie, c'était en Algérie, c'était au Maroc. Alors, la vie est là-bas naturellement très différente de celle de la France, ne serait-ce que par le climat, par le contact avec les populations.
Et est-ce que vous comptez rester à Orléans?
Oh oui, je pense. Qu'une raison imprévue nous fasse quitter Orléans, nous sommes probablement attachés ici.
Et vous ne travaillez pas?
Non, je ne travaille plus depuis que je suis mariée.
Mais est-ce que vous voulez bien me décrire une journée?
Une journée tout à fait personnellement, ou alors une journée qui peut être une journée typiquement française?
Typiquement pour vous, madame.
Pour moi. Eh bien, je suis mère de famille, j'ai 4 enfants. Le matin, je me lève entre 6h30 et 7h. Je ne parle pas assez fort.
Non, vous. Bon. Non, c'est très bien, madame, merci.
Je m'habille la première parce que j'accompagne presque tous les jours une fille au lycée qui est à une demi-heure de marche d'ici. Et pour lui éviter cette marche, je l'accompagne en auto. Je l'accompagne en auto parce que nos écoliers ont une lacune qui n'existe peut-être pas en Angleterre. Elle a un poids de livres considérable à emporter.
Ah oui.
Et ça lui a même occasionné une petite scoliose. Vous savez, une déformation légère de la colonne vertébrale.
Ah.
Alors pour éviter qu'elle porte, c'est environ 6 à 8 kilos de livres, car je les ai pesés pour que...
Tous les jours.
Tous les jours. Je la conduis en auto. Elle est demi-pensionnaire et elle revient le soir de la même façon.
Ah, oui.
Ou alors elle y va en mobylette quand il fait un temps convenable.
Ah, oui.
Maintenant, vous avez pu voir que dans Orléans, nous avions beaucoup de travaux d'assainissement des voies publiques qui nous empoisonnent et qui seront un bénéfice par la suite. Alors là... Les véhicules cyclomoteurs, c'est-à-dire les deux roues, sont un peu malmenés par tous ces travaux et ça c'est un peu dangereux. Alors j'évite de l'envoyer comme ça. Donc je me lève tôt et je la conduis. Après quoi je rentre ici et j'expédie le plus jeune en classe. Lui, il va à pied, il rentre à 8h30, alors ça ne pose pas de problème. Il va dans une pension qui est à côté d'ici.
Ah.
Et puis après, dans la matinée, alors je fais du ménage, je fais de la vaisselle. Je vais faire mes courses d'approvisionnement. Je sors tous les jours faire de l'approvisionnement. Je sais que certaines personnes ont une théorie un peu différente. Elles achètent un jour pour 3 ou 4. Mais enfin, moi, j'achète des choses très fraîches et j'aime ça. Je vais donc tous les matins faire un petit marché. Et une fois par semaine, je fais un grand marché. C'est-à-dire que je prends la voiture et que je vais dans un supermarché, dans un Prix Unique, par exemple, si vous voyez ce que je veux dire. Et où là, je fais un gros ravitaillement. Parce que les épiceries de quartier sont plus chères que les épiceries de collectivité. La matinée se passe donc, si vous voulez, essentiellement en travaux ménagers et en cuisine. Comme je n'aime pas tellement faire la cuisine, je prépare également mon dîner du soir, de façon à avoir une soirée libérée et à mener l'après-midi une vie assez différente de celle du matin. J'ai été élevée avec des domestiques. Je n'en ai presque plus. Les temps sont ainsi, je crois, pour tout le monde. Je sais qu'en Angleterre, vous avez aussi une grande pénurie domestique. Ici, on a ce qu'on appelle une femme de ménage, quand elle veut venir, et quand elle n'est pas malade, car il y a un mois et demi que je n'en ai pas eu, elle est revenue hier. Enfin, c'est pour vous dire des choses très simples, puisque vous me demandez ce genre
bien
de choses.
Oui, oui.
L'après-midi, alors, je sors faire d'autres courses, ou faire des visites, ou voir ma famille. Et dans la soirée, je... suis toujours rentrée pour le retour de classe des jeunes enfants, mm-hmm. de façon à les gronder dans leur travail et à les surveiller, parce que le plus jeune a 10 ans et ça demande encore de réciter les leçons, de faire certains devoirs avec moi. Et puis vers 7h30, 8h, je prépare et nous dînons. Et la soirée, alors après, ça se termine, on écoute la TSF, on lit, je tricote, je couds. Je sors quelquefois à des conférences, au théâtre.
Ah oui.
Alors ça, c'est une journée dans les périodes scolaires.
Ah oui.
Dans les périodes de vacances, c'est un peu différent parce que nous en allons d'Orléans assez souvent.
Mm-hmm. Bon, merci, madame. Et si vous ne faisiez pas tout ce que vous m'avez raconté, c'est-à-dire si vous avez pu choisir un métier à part de ça, qu'est-ce que vous aimeriez faire ?
Eh bien, j'étais assistante sociale. Mm-hmm. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'assistance sociale en France ?
Peut-être vous pouvez m'expliquer un tout petit peu, madame.
Les études comportent 2 ans d'études d'infirmière. Et maintenant, c'est un peu changé. Enfin, de mon temps, c'était 2 ans d'études d'infirmière et 1 an d'études sociales, c'est-à-dire les lois qui servent à aider les gens dans la vie courante. Par exemple, on s'occupe d'un vieillard pour lui faire avoir sa pension de vieillesse, sa retraite, d'un malade pour le faire hospitaliser, quantité de choses annexes. Mm-hmm. Alors, j'étais assistante sociale militaire. Mm-hmm. C'est-à-dire que je m'occupais, de ce point de vue, des familles de militaires. Mm-hmm.
De plus en plus de femmes mariées travaillent aujourd'hui.
Oui.
Vous, personnellement, madame, est-ce que vous êtes pour ou contre ?
Je peux être à la fois pour et à la fois contre. Mmh. À la fois pour parce que ça augmente le budget de façon intéressante. À la fois contre parce que les femmes qui travaillent sont forcément moins à leur intérieur, moins à leurs enfants, et qu'on constate que beaucoup d'enfants dont les parents travaillent des deux côtés ont une éducation moins soignée, moins raffinée. Mmh.
Et qu'est-ce que vous faites de votre temps libre ?
Je m'occupe de certaines œuvres sociales, puisque j'aime bien ça. Mmh. Je me consacre souvent à mes parents qui sont très âgés et qui ont besoin de moi, soit pour les conduire chez le docteur, soit même pour les recevoir en séjour à la maison quand ils sont trop fatigués. C'est assez variable, voyez-vous, ça. Mmh.
Et l'œuvre sociale que vous faites,
eh bien, ça consiste... Je m'occupe un peu des paralysés, c'est-à-dire que je fais la quête une fois par an dans la voie publique pour une œuvre de paralysés qui est patronnée par Suzanne Fouché, qui est une ancienne paralytique guérie. Elle a fait 14 ans de sana et d'allongement et elle a créé une œuvre très belle qui consiste à récupérer les anciens malades et même les malades et à les aider à se retrouver, à se recycler, à faire une situation dans la vie. Mmh. Alors je m'occupe un peu de cette œuvre-là. Oui. Je m'occupe aussi au lycée, la pension où est ma fille, qui est le lycée d'État ici. Et je fais partie du conseil scolaire. Ah oui. C'est-à-dire que quand il y a un conseil de classe pour noter les élèves, j'assiste à ce conseil de classe. C'est assez nouveau comme création parce que jusqu'à présent, les parents n'avaient pas accès au conseil de classe. Et cette année-ci, j'ai été désignée pour le faire. Je m'intéresse également à la maison des jeunes du quartier. Si j'avais plus de temps, je m'occuperais certainement de plus d'œuvres sociales. Mais enfin, jusque-là, pas tellement alors.
Et si vous avez 2 heures de temps libre supplémentaires par jour ?
Ah oui, c'est ça, ce serait très bien.
C'est très bien pour vous occuper
oui,
de cette heure.
Oui, c'est ça, oui.
Ah oui. Et comment avez-vous passé dimanche dernier ?
Ça n'avait aucun intérêt parce que j'ai préparé tout simplement la rentrée des enfants qui ne sont plus ici.
Ah oui.
Et nous étions rentrés de vacances la veille. Et il y avait beaucoup de choses à mettre en ordre. Les enfants avaient besoin de leur linge pour repartir. Je pense que ça n'était pas du tout un dimanche intéressant à vous raconter. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus quand nous allons à la campagne ou quand nous allons visiter un musée, une exposition, un château aux environs, le musée, qu'est-ce que je pourrais vous dire, par exemple, visite à Gien du musée de la Chasse, qui est un très joli musée.
Ah oui, oui.
Autour de nous, dans un rayon de centaines de kilomètres, il y a beaucoup de choses à visiter. Le Val de Loire est très riche. Mm-hmm. Je pense que vous avez rayonné un petit peu aux environs d'Orléans.
Un tout petit peu. Je reviendrai à cette question un peu plus tard, si vous me permettez,
oui.
Madame. À votre avis, qu'est-ce qu'on devrait apprendre surtout aux enfants à l'école ?
C'est un peu vaste comme sujet. Mm-hmm. Alors, bien sûr, le français et les mathématiques. Mm-hmm. Une ou deux langues étrangères. L'histoire et la géographie. C'est ce que l'on fait, d'ailleurs. Mm-hmm. Je pense que nous avons des études peut-être plus chargées que dans beaucoup d'autres pays. Mm-hmm. Et pas assez de sport. Ça, tous les Français vous diront ça, je suppose.
Pas tous, mais on a entendu ça. Mm-hmm. Mais à part des matières, madame, est-ce que vous croyez qu'on doit enseigner quelque chose ou...
L'enseignement civique, qui était à peu près parfait jusqu'à présent, bien des jeunes ne savaient pas ce que c'était qu'une préfecture, une mairie, une articulation de la vie sociale. Mmh. Maintenant, évidemment, selon les pensions où l'on s'adresse, vous avez des pensions religieuses, où on enseigne alors la religion. Et vous avez des pensions laïques, neutres, telles que les lycées, où les enfants ne reçoivent que sur demande un enseignement religieux. Mm-hmm. Et alors, ce qu'on appelait autrefois la morale, mais ça me paraît être plus ou moins supprimé, c'est peut-être très dommage, c'est démodé, mais enfin, c'était bien utile, c'est-à-dire le sens du devoir, qu'est-ce que le courage, qu'est-ce que la charité, voilà. Ces questions-là me paraîtraient très utiles à reprendre.
Mmh, vous croyez que c'est démodé ?
Il paraît. C'est dommage, à mon
c'est
sens.
C'est normal, oui. Moi aussi. Et qu'est-ce que vous pensez du latin à l'école ?
Eh bien, j'étais très partisane du latin. Je suis assez désolée de voir qu'on va le supprimer de plus en plus, parce qu'une culture de latine ne s'acquiert pas en quelques années. On parle de n'en faire plus qu'en quatrième. Ça me paraît vraiment très peu. Et très dommage, même si ça ne sert pas dans la vie, ça vous donne une culture irremplaçable. Mm-hmm.
Et dans quelle matière aimeriez-vous que vos enfants soient forts à l'école ?
Mais nous sommes plutôt tous littéraires, dans la famille, des deux côtés, de mon côté et du côté de mon mari. Alors je suis toujours navrée de voir mes enfants buter sur les mathématiques d'une façon aussi importante. Je n'en ai guère qu'un qui soit bon en mathématiques, les trois autres étant beaucoup plus littéraires. Je trouve que c'est dommage dans une époque où tout est porté vers les mathématiques. Mais puisque j'aime mieux la littérature, je suis contente d'avoir des enfants assez littéraires.
Et qu'est-ce qui fait que les enfants réussissent ou ne réussissent pas à l'école ?
D'abord leur capacité propre. Parce qu'on a toujours tendance à dire « Mon enfant ne réussit pas, donc le maître n'est pas bon. » Je pense que c'est une grave erreur qu'il faut dire « Mon enfant ne réussit pas » et en chercher les causes. Mm-hmm. Ça peut être une cause médicale, ça peut être une cause de tempérament personnel, de capacité. Il y a des enfants qui sont très doués et d'autres qui sont beaucoup moins. Alors ça... Est-ce que c'est ce genre de réponse que vous désirez ?
Et jusqu'à quel âge est-ce qu'il faudrait que les enfants continuent leurs études ?
Oh, ça alors, c'est un problème débattu en France, à mon avis pas résolu et pas réussi jusqu'à présent, parce qu'on a prolongé la scolarité jusqu'à 16 ans. Mmh. Il arrive donc qu'à 16 ans, des enfants qui ne sont absolument pas capables de poursuivre des études au-delà de ces 16 ans et qu'on a déjà tiré. Mmh. Péniblement depuis ce que nous appelons l'ancien certificat d'études, si vous voulez, jusqu'à un niveau, disons, BEPC, vous voyez à quoi équivalent ces sigles. Ils ne sont donc pas capables de continuer des études. Mmh. Et il est déjà tard pour leur mettre un métier en main. Mmh. Alors, tout l'artisanat ou l'ancien artisanat leur est un peu fermé. Il n'y a pas assez d'écoles... L'école professionnelle, Il y a bien des parents qui sont très ennuyés de cela. Par contre, ceux qui sont doués et qui peuvent faire ce que nous appelons des études classiques, ou tout au moins des études en vue d'aller dans les facultés, ceux-là ont une ligne toute tracée. Je ne sais pas si c'est une bonne chose d'avoir prolongé la scolarité jusqu'à 16 ans. Ou tout au moins, il aurait fallu peut-être se préoccuper d'avoir beaucoup plus d'écoles correspondantes à diverses possibilités après 16 ans.
Après. Et est-ce que c'est la même chose pour les garçons et les filles?
Ah oui, oui, oui.
Alors, madame, vous m'avez parlé de l'œuvre que vous faites. Pour revenir à la ville d'Orléans, est-ce que d'après vous, on fait assez pour les habitants à Orléans?
On fait beaucoup, certainement. Nous avons un maire qui est très actif. Tous les jours, sur les journaux, on voit des comptes rendus de toute son activité. Il y a un conseil municipal qui l'aide beaucoup, qui est très vivant aussi. J'ai dans ma rue une de ses conseillères actives. Je pense que même si on fait beaucoup, il y a encore beaucoup à faire. Mm-hmm. Et puis tout n'est pas toujours une réussite. C'est humain. Mm-hmm. C'est à l'échelle humaine.
Mm-hmm. C'est vrai. On a beaucoup parlé des événements de mai dernier, madame.
Oui.
Et moi, je n'étais pas en France à l'époque.
Bien sûr.
Mais est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé?
Oh, alors ça, c'est très long. Je regrette, j'avais une fille de 15 ans qui avait fait un petit résumé de ce que vous me demandez là, qui était très très bien fait. Mm-hmm. Et si j'avais su que vous me demandiez cette question, peut-être l'avait-elle encore. Donc vous savez, je ne me sens vraiment pas capable de vous faire un résumé. Si vous voulez, les étudiants ont été mécontents. À Orléans, nous en avons eu très peu de, nous en avons eu très peu de secousses. Il n'y a eu presque rien à la source. Ça a été insignifiant, surtout à Paris.
Oui.
Alors ça a eu des correspondances politiques, évidemment, puisque ça nous a amené après à avoir un vote, un référendum, etc. Mais je pense que ce serait très long de reprendre la question complètement.
Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ces événements, alors?
Comme on les explique dans le monde entier. Ça n'est pas en France que ça a débuté. En Italie, il y a eu des mouvements semblables. Je pense que la jeunesse est mécontente de ce que nous ne faisons pas pour elle. Elle voudrait un autre style de vie, d'autres possibilités. Les jeunes voient leur avenir assez bouché. Ceux qui ont fait des études ne trouvent pas de situation.
Ah, oui.
Mais ça, c'est un peu général. Je ne pense pas que ce soit spécial à la France.
Non, c'est ça.
Ils ont peut-être beaucoup d'idéal, malgré leurs cheveux longs et leur air un peu zazou et rayé, et tout ce qu'on veut. Ils ne sont pas satisfaits. Maintenant, quand on regarde avec le recul de l'histoire, on retrouve des époques semblables où il y a eu des troubles, c'est un perpétuel recommencement.
Mais il n'y avait pas de télévision ou de la presse.
Exactement, pour amplifier et pour propager les choses et pour donner aux gens d'en faire immédiatement envie au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Je pense que ça favorise l'expansion des idées, des bonnes et des mauvaises.
C'est ça. Est-ce que vous croyez que les différences entre les classes sociales sont très marquées à Orléans?
Est-ce que cet enregistrement est anonyme?
Tout à fait, madame.
Oui, c'est très marqué.
Comment ça? C'est très anonyme, je vous assure.
Eh bien, comme dans beaucoup de villes de province, je suppose, la ville est, si vous voulez, assez cloisonnée entre les différentes classes de la société.
Et puisque je vous assure, madame, que c'est tout à fait sur l'anonymat, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelque chose un peu plus?
Les gens vivent beaucoup entre eux, par affinité, par groupe de situation également. Je pense que les médecins et leurs familles, n'est-ce pas, quand je vais dire les médecins, les avocats, les avoués, ce sont les familles, se voient entre eux et ne tiennent pas tellement à voir d'autres groupes. Si, ils se voient sur un plan général, mais au point de vue amical, les gens restent très cloisonnés. Mmh. Et vous avez des groupes, les grands commerçants se voient entre eux, mais certainement, ils ne voient pas les petits commerçants qui font un autre genre de société. L'aristocratie reste assez cantonnée de son côté.
Et à quoi est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un de l'aristocratie ? Ah bon, merci. Et est-ce que vous croyez qu'on peut passer d'une classe à l'autre, alors ?
Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on y soit accepté pour autant.
Ah oui. Et ces différences entre les classes ont-elles tendance à diminuer ou à augmenter ?
Ah non, elles ont tendance à diminuer, ne serait-ce que par les mariages qui se font d'une façon beaucoup plus libre d'une classe de la société à une autre. Mais enfin, ça reste tout de même en profondeur encore marqué. Il y a une grosse tendance à unifier les classes, à rapprocher les gens. Voilà, j'en suis très partisane, comprenez-vous, mais enfin, vous avez encore des personnes qui ont, disons, un esprit arriéré et qui n'admettent qu'en surface, mais pas en profondeur.
Ah oui.
On vous aura présenté quelqu'un dans une société amicale et ce quelqu'un n'aura pas envie de vous revoir, et bien quand vous le rencontrerez dans la rue, il affectera de ne pas vous reconnaître. Mm-hmm. Voilà un exemple typique de ce que vous me demandez.
Ah oui.
Il ne le fera pas peut-être toujours par mépris, mais pour protéger les relations de ses enfants, dans le sens où il veut que ses enfants aient des relations, dans le sens où il veut que ses enfants se marient. Et c'est ça qui caractérise son attitude.
Mmh. Alors, peut-être que je peux revenir à la question de l'enseignement. Quelle différence y a-t-il entre les lycées, les CEG et les CES ?
Alors, le CES, c'est un enseignement court qui conduit l'enfant à arrêter ses études. Ou attendez, non, c'est le CEG. Je me suis trompée. Voulez-vous faire une correction ? Alors,
non,
je parle
non,
du
c'est...
Bon, oui, ça ne va pas être très brillant. Le CEG conduit l'enfant à un enseignement court qui s'arrêtera à la fin de la scolarité. Le CES, cours d'enseignement secondaire, conduit l'enfant à un enseignement long qui se continuera en lycée jusqu'au baccalauréat et au-delà aux facultés si la famille ou l'enfant le désire. Et puis vous m'avez demandé une troisième chose.
Les lycées.
Alors les lycées, eh bien les lycées amènent les enfants au baccalauréat.
Et est-ce qu'il y a une différence entre les élèves ?
C'est tout. Oui, parce que vous avez différents cycles et différentes sections. Vous avez le classique et le moderne. Mais en ce moment, il y a des quantités de branches qui viennent d'être créées et qui ont tendance, je crois, à réunifier. Il y aura moins de séparation entre le classique et le moderne. Et puis, si on fait de moins en moins de latin.
Ah oui. Et est-ce que l'enseignement a beaucoup changé depuis que vous avez terminé vos études ?
Énormément changé. Si vous voulez, j'ai terminé mes études avant la guerre de 39-40. Alors, à ce moment-là, on n'avait pas pour objectif, d'une façon aussi tenace et aussi désirable, le baccalauréat, surtout pour une femme. Les hommes, si, les hommes déjà aspiraient à aller aux facultés, au baccalauréat. Les femmes d'une certaine société, c'était une terminaison honorable, mais enfin... elles allaient beaucoup moins dans les facultés que maintenant. Maintenant, pour tous les enfants, on désire qu'il ait une situation, que ce soit un garçon ou une fille. De mon temps, si vous voulez, une fille qui avait le baccalauréat, c'était considéré comme très bien, et ensuite, on pensait qu'elle se marierait, qu'elle ferait une bonne mère de famille. Certaines déjà prenaient des situations. Il y avait des femmes médecins, des femmes avocats, mais enfin, ça s'est beaucoup développé depuis la guerre, depuis la nécessité matérielle de travailler, parce qu'au fond, tout est là. Et puis l'évolution aussi de la femme, il y a la quantité de femmes qui aiment leur indépendance et qui l'achètent par un métier. Alors les études sont très différentes parce que les objectifs sont différents et je pense que maintenant on est beaucoup plus acharné à faire travailler les enfants et à les voir réussir. Et que si on ne les voit pas réussir, on s'en désole et on se donne beaucoup de peine pour leur trouver autre chose qui puisse leur permettre de gagner leur vie.
Mmh. Et comment est-ce qu'on fait le choix entre l'école publique et l'école libre ?
C'est une question confessionnelle. L'école, j'ai des enfants des deux côtés, alors je suis assez bien placée pour vous répondre.
Ah, très bien.
J'ai des enfants dans des pensions religieuses, très religieuses, même j'en ai dans un lycée d'État. Les deux ont leur bon côté. Évidemment, du côté de l'enseignement religieux, les enfants sont, si vous voulez, plus encadrés moralement, tout au moins, enfin, nous espérons que c'est comme ça, et ils reçoivent un enseignement religieux tout au long de la journée, peut-être, un peu. Tandis que dans les lycées d'État, c'est neutre, et si on le demande, il y a des aumôniers qui sont attachés au lycée et qui peuvent donner des cours aux enfants. Alors les lycées sont gratuits, les écoles religieuses sont payantes, elles tendent maintenant à demander un contrat avec l'État, c'est-à-dire que leurs professeurs, les diplômes de leurs professeurs sont contrôlés, le nombre des élèves dans les classes est contrôlé, le service médical est assuré. Les enfants sont tenus d'avoir tant d'heures de cours, etc., un peu se rapprochant du système de l'État. Et malgré tout, la pension est payante. Et l'État apporte une aide matérielle également à ces collèges, ce qui leur a permis de ne pas augmenter leur prix, ou même certains collèges les diminuer selon ce qu'ils demandaient aux parents. Alors vous avez des établissements qui sont complètement privés, qui vivent absolument indépendamment de l'État.
Vous m'avez parlé, madame, d'un conseil de classe quand parents vous appartenez.
Oui.
Mais êtes-vous favorable à la participation des élèves au conseil d'administration des écoles ?
Bien, ma fille en fait partie également. Et je trouve ça très bien. Je pense que ça ne pourra donner ses fruits d'ailleurs que dans les années très à venir. Parce que voyez-vous, c'est nouveau depuis cette année. C'est encore un peu révolutionnaire. C'est encore, je pense, pas très bien admis par la majorité des professeurs qui, évidemment, ont vu un petit peu arriver comme des intrus des parents et des élèves dans les conseils de classe. Elles s'y habitueront, de même que les parents qui représentent les autres parents, puisque nous sommes deux pour représenter 26 parents, si vous voulez,
ah oui,
chaque classe. Et les parents et les élèves qui représentent alors leur compagne, car ma fille, si vous voulez, à son niveau scolaire, représente les élèves de sa classe avec une autre élève, et je représente les parents de sa classe avec un autre parent d'élève. Alors, si on a un peu, on manque un peu de savoir-faire encore, pour commencer. On ne sait pas très bien ce qu'il y a lieu de demander et ce qu'il y a lieu de taire. Alors, pour l'instant, j'ai pris plutôt une position d'observation, si vous voulez, plus que de revendication. Il faut s'habituer des deux côtés, au fond, c'est
bon.
Ça.
Est-ce que vous trouvez que les élèves, par exemple, ne s'occupent pas trop du fait qu'ils se trouvent déjà dans avec la participation, au lieu de penser ce qu'il faut décider ou demander?
Vous voulez me reposer la question?
Ce que je cherche, c'est qu'il y a des élèves qui participent dans l'administration de l'école, n'est-ce pas?
Oui.
Est-ce que vous trouvez que ces élèves sont beaucoup plus occupés du fait qu'ils ont gagné ce qu'ils ont cherché, c'est-à-dire la participation,
oui,
au lieu de savoir exactement ce qu'ils cherchent?
Ma fille est encore jeune. Alors, je ne sais pas très bien vous répondre pour ça. Je ne pense pas qu'elle en ait fait une question personnelle de réussite. Pas du tout. Elle a plutôt l'esprit de rendre service, voyez-vous. C'est possible que d'autres enfants soient très contentes d'être chef de classe et que ça n'aille pas plus loin.
Ah oui.
Et qu'elles ne sachent pas très bien non plus quel rôle elles vont avoir. Ça, c'est possible. Il faudrait que j'ai des cas plus multiples à vous exposer.
Ah oui.
Je ne me rends pas encore assez compte. D'abord, c'est tellement nouveau.
Mais vous croyez que ça marche, alors?
pense que ça marche très bien pour certaines classes, pas du tout pour d'autres, mm-hmm. parce que c'est encore mal régi par un règlement et qu'il mm-hmm. faut que chacun trouve à se situer dans cette chose-là, vous voyez. C'est pas encore fait.
Mm-hmm. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'enseignement?
Mais on dit beaucoup que les Français sont abrutis par leurs études. Je pense qu'il y a du vrai. Les enfants font très peu de sport. Ils ont très peu de détente pure. Et ça s'assortit d'un travail scolaire intense et de vacances beaucoup trop longues. On me dit toujours qu'en Allemagne et en Angleterre, les vacances sont mieux réparties. Vous avez des vacances plus courtes et vous avez un programme scolaire moins chargé. Mm-hmm. Nous aimerions bien en arriver là. Ah, ça n'a pas encore l'air d'être effectif.
On pourra changer tout en même temps.
Ah, il faudrait certainement que les enfants aient moins de travail purement intellectuel. Ils sont vraiment très surchargés. Il y a des classes qui sont vraiment très surchargées.
Merci, madame. Alors, maintenant, je vais vous poser des questions, un questionnaire préparé par un de mes collègues, et je vais essayer de noter quelque chose, mais c'est simplement pour voir ce que je vous pose toutes les questions. Y a-t-il, madame, chez vous un dictionnaire?
Oh, il y en a 4 ou 5. Heureusement, 5. Hein, par personne, c'est pas trop.
Et lesquels, par exemple?
Il y a Larousse en 3 volumes.
Larousse.
Il y a un Quillet.
Quillet.
Et puis il y a des petits Larousse dits du baccalauréat. Voulez-vous les voir? Voulez-vous
voir ces... Non, merci. Petit Larousse. Alors, et où gardez-vous ces dictionnaires?
Eh bien, chaque enfant en a un en possession dans sa chambre de travail. C'est-à-dire que mes enfants travaillent chacun dans leur chambre et ils ont un coin bibliothèque.
Et vous les avez achetés comme cadeaux pour les enfants?
Oui, exactement. On leur a donné à tous, à l'entrée en 6e, un dictionnaire qui est le petit Larousse du baccalauréat, c'est-à-dire un dictionnaire qui leur donne tous les renseignements nécessaires jusqu'au baccalauréat. Et puis alors pour nous, nous avons acheté un Quillet parce qu'à un moment donné, on avait besoin d'un dictionnaire. Et puis nous avons acheté un Larousse en 3 éditions, enfin en 3 volumes, parce qu'il est beaucoup plus complet et il est très récent.
Et qui s'en sert le plus souvent?
Oh, tout le monde.
Et vous personnellement, madame?
Si, je m'en sers aussi.
Combien de fois par mois?
Ah, oh, plutôt par semaine.
Ah.
Je vais vous amuser, j'ai un grand-père qui disait toujours « cherchez le mot propre ».
Ah oui.
Cette formule est restée dans la famille et nous avons très tendance, même en parlant, à prendre un dictionnaire et à vérifier un mot, à le décortiquer, à le discuter.
Alors, quel genre de choses y cherchez-vous le plus souvent? C'est l'orthographe ou le sens ou l'histoire?
Rarement l'orthographe parce que nous sommes censés la connaître. Bien sûr, nous faisons encore quelques fautes et quelquefois pour un mot difficile, personnellement en tout cas, j'ai besoin du dictionnaire. Et mon mari ne s'en sert jamais pour ça, mais moi ça m'arrive. Et pour le sens, oui, plus souvent.
Et quand l'avez-vous regardé pour la dernière fois?
Hier.
Pourquoi même?
Eh bien, nous y avons cherché tout ce qui concernait l'Empire, parce que j'avais une fille qui avait un exposé à faire sur l'Empire. Alors nous avons pris chacun un dictionnaire, le père, la mère et la fille, et on a essayé de trouver ce qui concernait l'Empire sur ces dictionnaires et d'en faire un petit résumé.
Alors c'est un devoir pour toute la famille alors.
C'est-à-dire que ça nous intéresse. Nous intéressons beaucoup aux études de nos enfants.
Pourquoi? Alors, possédez-vous un livre sur l'art de parler ou de l'art d'écrire? Les difficultés de la langue française, le vocabulaire, l'orthographe.
Ah, ça, alors là, des livres scolaires en quantité, oui. Mais sur l'art d'écrire, peut-être ai-je bien acheté une fois à un de mes fils un livre sur la façon de rédiger les lettres, parce que je trouvais qu'il ne savait pas du tout rédiger une lettre. Il venait me demander constamment, et à Madame Intel, qu'est-ce que je dois dire à la fin de ma lettre Et pour telle chose, comment dit-on? Alors, je lui ai dit, écoute, je vais t'acheter un livre et puis tu en feras un bon usage. Tu me demanderas tout de même si ça convient.
Mmh. Et faites-vous des mots croisés, madame?
J'aime beaucoup ça, mais je n'ai pas tellement le temps.
Mmh. Et quand vous les faites?
Eh bien, alors, le dictionnaire est très utile.
Très utile. Et vous avez le temps de faire une par semaine?
Oui, c'est ça, pas plus.
Et ça vous plaît, ça vous amuse?
Oui, c'est une détente agréable. J'aime mieux ça que de faire des mathématiques. Mmh. Car il y a des personnes qui font l'algèbre par plaisir.
L'algèbre par plaisir?
Ah oui. J'ai un oncle qui griffonne de l'algèbre et des mathématiques sur tous ses buvards, ses petits bouts de papier. Il y en a d'autres qui font des dessins. Ça dépend des goûts.
Et que pensez-vous du franglais, madame?
Je n'aime pas.
Pourquoi?
J'aime bien qu'on emploie sa langue, dans sa langue, tout ce qu'on a à dire, ou alors qu'on exprime dans l'autre langue complètement, mais je n'aime pas tellement tous les mots qui sont pêchés dans l'anglais en particulier et qui sont très à la mode en France. Ça n'est pas du tout péjoratif pour les Anglais. Je trouve que c'est péjoratif pour les Français qui ne sont pas capables de trouver la formule en français.
Mais il y a des mots qui existent en anglais qui sont...
Qui sont pris dans le français, c'est bien possible.
Et je crois qu'il faut vous dire que la plupart de ce qu'on appelle franglais, c'est à peu près l'américain plutôt que...
Oui. Oui, pendant la guerre, j'ai fréquenté beaucoup d'Américains puisque je me suis trouvée en Afrique du Nord au moment du débarquement américain, c'est-à-dire en 1942. Mm-hmm. Et j'ai constaté que l'américain... était rude par rapport à l'anglais.
C'était notre Bernard Shaw qui a écrit une fois que les Américains et les Anglais sont deux nations divisées par une langue commune.
Ah oui, c'est bien vrai. C'est bien vrai.
Y a-t-il des différences, selon vous, madame, dans la façon de parler français entre les gens appartenant à des milieux sociaux différents?
Ah oui, bien sûr.
Et ces différences sont-elles très grandes ou grandes ou...
Non, parce que un ouvrier peut comprendre ce que dira un intellectuel, non pas peut-être tous les termes, mais dans le langage courant. Mm-hmm. Autrefois, il y avait en France, comme je pense dans vos pays, des dialectes, mm-hmm. des patois. Ça n'existe pratiquement plus, ça existe encore. Mais enfin, l'homme qui parlera patois dans sa famille... et ça devient très rare, saura comprendre le français classique. Mmh. Mais enfin, il est bien évident que des ouvriers ne s'expriment pas entre eux comme des intellectuels. Mmh. Ils ont ce qu'on appellera un langage moins châtié, plus ordinaire, plus vulgaire.
Et selon vous, est-ce que...
Si vous voulez, un ouvrier dira à son fils « Fous-moi le camp » et moi je dirais « Sors pour me laisser parler
». Et selon vous, les gens parlent-ils de mieux en mieux, de plus en plus mal?
Ah, de mieux en mieux, je pense. C'est-à-dire que la jeune génération intellectuelle se perd peut-être un peu dans des mots, disons, incompréhensibles. Mmh. Mais le peuple parle mieux, beaucoup mieux. D'abord, il va beaucoup plus à l'école, alors il parle mieux. C'est...
Et parmi vos connaissances, madame, quelle est la personne qui parle le mieux le français?
À Orléans, je peux citer deux personnes qui parlent très bien le français. Et ça n'est pas du tout pour faire un éloge de notre mère, mais c'est un littéraire et un intellectuel, et il manie admirablement le français. Tous ses discours sont toujours remarquablement fins, aisés, très à propos. Et puis alors vous avez aussi le recteur Antoine, qui malheureusement est beaucoup plus à Paris maintenant avec le gouvernement Edgar Faure, enfin avec le ministre Edgar Faure qu'ici, mais on avait vraiment un très grand plaisir à l'entendre s'exprimer. Et puis il y a quelqu'un qui est décédé récemment, qui était Monseigneur Picard de la Vacquerie, qui qui avait un langage magnifique. Un au fait de Jeanne d'Arc dont vous avez dû entendre parler, l'évêque de la ville et le maire se faisaient réciproquement un discours tous les ans sur le parvis de la cathédrale, le 8 mai. Et quand c'était M. Secrétin, qui est encore maire, et Mgr Picard de la Vacquerie, qui est décédé il y a trois semaines environ, c'était vraiment un feu d'artifice.
Y a-t-il en France un organisme officiel qui décide si un mot ou une expression fait partie ou non du bon français ?
Oui, l'Académie.
Et est-ce que vous croyez que c'est très utile ou... voilà.
Comme je vous ai dit, nous sommes littéraires dans la famille, nous apprécions tout ce qui est beau langage et littéraire. Nous trouvons que l'Académie est très utile.
Très utile. Est-ce qu'il faudrait obliger les journalistes, les speakers de la télé, de la radio, à employer un bon français ?
Ah oui, certainement. Et si nous n'avons pas la télévision, c'est en partie parce que nous trouvons que les émissions sont médiocres, qu'on y perd du temps et que par rapport à tout le temps qu'on peut gagner sans la regarder, c'est pas valable. Évidemment, il y a des émissions très intéressantes, très culturelles, mais en dehors de ça, il y a aussi beaucoup de temps à passer inutilement et souvent très vulgaire ou très médiocre de qualité.
Et à la radio, maintenant ?
À la radio, nous prenons Radio Luxembourg, très souvent, Europe numéro 1.
Et aujourd'hui, à votre avis, est-ce que la langue française est-elle enseignée aussi bien, mieux ou même moins bien que du temps où vous étiez vous-même à l'école ?
Je trouve qu'on a beaucoup compliqué la grammaire, ce qui ne simplifie pas les études des enfants. Je trouve que nos livres de grammaire d'enfants étaient plus clairs, plus simples. On a voulu peut-être en apprendre plus aux enfants à un âge inférieur et à moins d'avoir affaire à des cerveaux remarquables. Beaucoup d'enfants butent sur tous ces mots, sur toutes ces analyses très disséquées. C'est peut-être une erreur. Enfin, là, je ne sais pas, je ne suis pas du tout professeur. Je ne voudrais pas m'engager dans une voie dans laquelle je n'ai pas assez de connaissances.
Et dans quelle matière étiez-vous le plus fort à l'école ?
En français et en anglais.
En anglais.
C'est assez risible parce que je ne saurais pas vous dire grand-chose en anglais maintenant.
Habituellement, avez-vous quelque chose pour écrire sur vous dans votre sac à main ?
Oui, bien sûr. Un stylo et un carnet.
Et possédez-vous un stylo à plume ?
Non, je possède un stylo à billes depuis que ça existe. J'ai supprimé le stylo à plume parce que ça me fait moins de tâches.
Ah.
Et puis parce qu'on n'est pas en panne comme avec un stylo. Quand il est sec, il est sec.
Et quand avez-vous possédé pour la première fois un stylo à plume ?
Je devais avoir une dizaine d'années.
Et quand avez-vous écrit pour la dernière fois, madame ?
Des lettres, j'en écris tous les jours. Donc, j'ai écrit une lettre encore ce matin.
C'était pourquoi ?
Oh, c'est une lettre familiale. J'écris beaucoup dans la famille. Mon mari est d'une famille de 15 enfants, alors il y a beaucoup de frères et sœurs, et il y a toujours des lettres en attente.
Et est-il important, selon vous, d'avoir une belle écriture ?
Ça avait de l'importance, il semble que ça en ait moins, parce que avec la rapidité avec laquelle les cours sont dictés en classe, les enfants prennent l'habitude d'écrire mal. Et puis on écrit d'une façon plus conventionnelle aussi, ces écritures modernes, un peu carrées.
Mais est-il important selon vous d'avoir de l'orthographe?
Ah, ça c'est indispensable.
Pourquoi?
La personne qui fait de nombreuses fautes d'orthographe se classe tout de suite comme une personne n'ayant pas d'instruction. Néanmoins, je connais des centraliens ou même des polytechniciens qui font des fautes d'orthographe.
Et seriez-vous favorable à une réforme de l'orthographe?
C'est-à-dire à une réforme de simplification de l'orthographe. C'est peut-être plus commode, alors ce serait phonétique. Mais on ne retrouverait plus dans les mots l'origine latine. C'est une question de convention et de modernisme. S'il faut s'y mettre, on s'y mettra. On se met à beaucoup de choses, malgré les goûts qu'on peut avoir.
Et qui de vous, c'est-à-dire vous ou votre mari, écrit habituellement à des amis communs?
C'est très souvent moi.
Et à la famille de votre mari?
Ça se partage.
Et à votre famille?
C'est moi. Mais il arrive que mon mari écrive à des membres de ma famille. Ce n'est pas absolument formel, mais enfin, c'est peut-être parce que j'ai plus de temps aussi.
Et qui remplit les papiers administratifs?
Alors, ça dépend. Les impôts, c'est mon mari. Et les feuilles de sécurité sociale, c'est moi. Je crois que beaucoup de personnes vous répondront la même chose.
On a trouvé différentes réponses, tout à fait différentes. Et pourquoi est-ce que vous partagez de cette façon?
Pour ça, je ne sais pas. Je pense que les impôts, c'est tout de même plus le rôle du mari.
Et qui de vous, alors je deviens peut-être un peu personnel, trop personnel madame, mais qui de vous, c'est-à-dire vous, votre mari, possède la meilleure orthographe?
Ah, c'est mon mari qui...
Et la plus belle écriture?
Ah, faut que je vous montre les deux, c'est vous qui décidez. Ah,
alors, vous croyez que c'est égal alors?
Bon, à peu près, je pense. Vous savez, de toute façon, l'écriture, c'est le reflet du caractère et de la personnalité. Alors, ça ne peut pas être semblable.
Et je dois vous poser deux questions peut-être difficiles à répondre. Qui parle dans le meilleur français?
Je ne sais pas, mon mari, probablement.
Et qui écrit dans le meilleur français?
Alors, je crois que nous écrivons assez bien l'un et l'autre. Bon.
Et combien de lettres écrivez-vous en moyenne par mois?
Oh Seigneur, par mois, je ne sais pas. Une vingtaine peut-être.
Et conservez-vous les lettres personnelles qu'on vous envoie?
Non, bien que ce fût une coutume... Dans ma famille, je ne le fais plus parce que j'ai beaucoup déménagé. J'ai déménagé 14 fois, ceci dû au métier de mon mari. Je ne pouvais pas me permettre de garder des archives. Et puis la guerre s'est chargée de répandre au vent et aux flammes le reste. Alors, nous n'avons plus de souvenirs intéressants dans ce domaine.
Et quand vous écrivez à des amis, faites-vous un brouillon?
Ah non, je ne fais jamais de brouillon, sauf si j'ai une lettre administrative à faire.
Ah oui. Et vous faites attention toujours aux fautes d'orthographe?
Ah oui, bien sûr, je me relis toujours.
Ah. Et vous m'avez dit que vous écrivez toujours avec stylo bille?
Oh oui, presque toujours.
Et quel type de papier utilisez-vous?
Du papier très ordinaire.
Et qu'est-ce que c'est, un papier très ordinaire?
Mais c'est du papier qui est acheté dans les prises uniques.
C'est blanc?
C'est blanc, uniquement du papier blanc.
Sans ligne?
Sans ligne, bien sûr, parce qu'alors là, c'est encore la même chose. Les personnes qui utilisent des lignes caractérisent un certain type d'éducation et d'instruction.
Vous avez parlé d'éducation et d'instruction, madame.
Oui, parce que utiliser des lignes signifie qu'on en a encore besoin pour écrire bien, pour écrire droit. Et vous trouverez le papier rayé ou le papier quadrillé chez les gens qui ont eu peu d'instruction ou qui sont habitués à une commercialisation par le métier. Enfin, en principe, on écrit sur un papier blanc.
Mais quand vous écrivez une lettre officielle, vous faites toujours un brouillon.
Oui, parce que je tiens à garder ce que j'ai écrit.
Et vous servez du même papier,
papier. Oh oui, oh oui.
Et je vous ai dit au début que peut-être je vais vous poser des questions un peu plus personnelles, mais j'y arrive. Y a-t-il des choses qui vous agacent dans la façon de parler de votre mari ?
Dans la façon dont il s'exprime ? Non, il s'exprime très clairement.
Et y a-t-il des choses qui agacent votre mari dans la façon dont vous parlez ?
Vous voulez que je lui demande de venir ? Il est là, il travaille par là.
Non. Alors, peut-être je peux poser la question d'une autre façon. Lui arrive-t-il quelquefois de vous reprendre de...
Ah oui, parce que je n'emploie pas le mot propre. Eh bien, oui, ça lui arrive.
Vous avez dit toujours le mot propre, comme vous l'avez dit votre père, n'est-ce pas ? Le propre. Y a-t-il des choses qui vous agacent dans la façon de parler de vos enfants ?
Chez les jeunes, je n'aime pas lorsqu'ils emploient un mot d'argot ou un mot vulgaire.
Vous arrive-t-il de les reprendre ?
Oui, mais je ne peux pas dire que ça arrive très souvent chez nous.
Et qui les reprend le plus souvent ? Vous ou votre mari ?
Oh, c'est indifféremment. Dans l'ensemble, il s'exprime bien. Même celui qui a 10 ans s'exprime très, très bien. L'autre jour, il a fait un devoir de style en classe qui a été affiché tellement il était bien. Voilà un enfant de 10 ans qui racontait une histoire qui se passait dans la jungle. Et alors, à un moment donné, il est jeune tout de même, il mue par un instinct, je fis telle chose. Bien, c'est assez rare de voir un jeune enfant dire cette phrase et qu'elle soit bien placée, qu'elle vienne à propos.
Y a-t-il des mots que vous interdisez de prononcer à vos enfants ?
Oui. Tenez, l'autre jour, c'est dimanche. Je ne sais plus quel membre de la famille a dit à mon fils aîné « Est-ce que tu as rencontré une copine à la sortie de la messe ?» J'ai dit « Je ne veux pas entendre ce mot que je trouve très vulgaire. Dites une camarade, dites une amie, mais ne dites pas une copine. » Voilà typiquement ce que vous me demandez.
Mais les punissez-vous s'ils les prononcent ?
Pardon ?
Est-ce que vous punissez les enfants s'ils prononcent les mots ?
Oh non.
Et vos parents ? Faisait-il attention à la façon dont vous parliez ?
Ah oui, beaucoup.
Et qui vous reprenait le plus souvent, votre père ou votre mère ?
Ma grand-mère.
Grand-mère.
Elle était une personne très sévère, qui ne permettait pas que je m'adosse à un fauteuil. Elle exigeait que je reste comme ça, et qui ne permettait pas qu'on s'exprime mal. C'est une époque tout à fait révolue. Ce serait très mal vu par les jeunes à l'heure actuelle qu'on leur fasse des remarques de ce genre.
Madame, si vous n'êtes pas trop fatiguée, je voudrais bien vous poser un peu.
Non, ça, c'est assez question. Amusant.
Alors,
pas du tout ce que vous en tirerez, par exemple. Parce que...
Mais alors, vous avez dit que c'est amusant.
Je pense que je réponds avec assez de simplicité et de clarté.
Vous répondez d'une façon exactement qu'on a eu. Alors, la première question que je vais vous poser maintenant peut-être va vous faire rire. Mais je la pose quand même.
Posez.
Comment est-ce qu'on fait une omelette chez vous ?
J'ai appris ça à mon fils cadet il y a peu de temps. je prends un bol, un grand bol. Mm-hmm. Et à côté, une petite tasse. Je prends les œufs. Je casse chaque œuf dans la petite tasse pour vérifier que l'œuf est bon. Et je le mets dans le grand bol. Et ainsi de suite, de façon à ne pas mettre un œuf gâté dans une quantité d'œufs. Mm-hmm. Parce que si j'étais à la campagne et que je lève mes œufs dans le poulailler moi-même, je ne le ferais pas. Mais comme je suis en ville, je suis quelquefois un peu sceptique sur la fraîcheur de la marchandise. Et quand j'ai mis les œufs en quantité voulue, j'ajoute du sel, du poivre et une cuillère à soupe de lait. Notez bien ça parce que tout le monde ne le fait pas et ça donne un moelleux particulier à l'omelette. Mm-hmm. Et puis c'est meilleur si vous mettez des fines herbes ou du persil en particulier. Mm-hmm. Vous battez vos œufs avec deux fourchettes que vous mettez entre vos doigts. Et vous faites l'omelette en versant ce résultat dans une poêle avec de l'huile très chaude ou du beurre si vous préférez. Mm-hmm. Voilà. Je pense que vous demanderez des recettes moins classiques à d'autres, de façon à vous faire
c'est
un,
la façon de préparer
un menu.
C'est la façon de préparer l'omelette.
Ça va bien amuser vos élèves.
Espérons-le. Alors, un étranger veut venir en France pour apprendre le français.
Oui.
Dans quelle région est-ce qu'il doit aller, d'après vous?
Bien, vous savez qu'en France, il y a tout de même des accents. Dans le Nord, on parle « che ». Dans le Midi, on donne un accent, un ton. Il faut peut-être mieux venir dans le centre, dans l'Île-de-France, par exemple, pour avoir le moins d'accent possible. Mais je pense qu'on peut être très bien reçu dans les quatre coins de la France. Et qu'on peut très bien y apprendre le français tout de même.
Oui. Et est-ce qu'il y a des endroits qu'il devrait éviter?
Oh, pourquoi éviter? Parce que d'abord, je ne connais pas toutes les régions de la France. Alors, je ne puis pas vous déconseiller une région plus qu'une autre. Évidemment, par exemple, si vous envoyez un Anglais à Strasbourg, il faut vous assurer de le mettre dans une famille où l'on parle bien le français. Parce qu'à Strasbourg, couramment et communément, même dans les magasins, on s'adressera d'abord à vous en alsacien avant de s'adresser en français. Et puis, quand on vous aura servi en français, parce qu'on a vu que vous ne parliez pas alsacien, on se remettra à parler alsacien avec l'autre personne, de sorte que l'anglais qui viendra là entendra moins de français dans son oreille.
Mmh. Et pour bien apprendre le français, quel genre devrait-il fréquenter?
Tous les gens un peu. Il faudrait le mettre en contact avec toute la population presque. Il vient dans une famille, je suppose, votre anglais.
Et quelles sont, d'après vous, les difficultés de la langue française pour un étranger?
Les nuances, les mots qui signifient des choses différentes et qui ont le même son, la grammaire qui est extrêmement difficile. Je plains beaucoup les étrangers. Parce que j'ai déjà beaucoup de mal à l'apprendre à mes enfants.
Est-ce qu'on parle bien à Orléans?
Oh oui, on parle bien français à Orléans. Oui.
Vous avez dit que vous avez eu de la peine d'enseigner le français à vos enfants, oui, puisque vous croyez que le français est une langue difficile.
Le français est une langue très difficile. Et il ne faut pas que ça soit... Que les étrangers se découragent de l'apprendre. Mmh. Et puis même si on ne parle pas un très bon français, on arrive à se faire comprendre, c'est déjà quelque chose. Mmh. Moi, je ne ris jamais des étrangers qui emploient des expressions un peu ridicules, parce que je me dis que si j'étais à leur place, ce serait bien pire.
Et en quoi est-ce que consiste ces difficultés dont vous parlez? Parce que toutes les langues ont une grammaire, n'est-ce pas?
Ah oui, mais la grammaire française est particulièrement compliquée. Quand on la compare à la vôtre, je trouve que... Évidemment, chez vous, il y a le « ze », la nuance du « ze » qui nous embarque tous dans des complications parce qu'on ne sait jamais si on doit le mettre ou ne pas le mettre, quand il faut l'employer. Mais nous, toutes les conjugaisons sont un piège.
Les verbes irréguliers.
Non, les verbes irréguliers, quantité de choses. Alors là, il faudrait prendre un livre pour que je vous cite toutes les difficultés. Je pense que ce n'est pas ça que vous attendez de moi.
Non, je me rappelle, quand j'étais étudiant, j'ai regardé dans une librairie et j'ai lu un livre avec à peu près 500 pages. Et le titre, c'était simplement « Est-ce que A ou de ?»
Oui, c'est ça.
Alors, quelqu'un est de passage à Orléans. Il vous demande ce qu'il pourrait faire pendant son séjour. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire?
Bien, je lui propose soit de l'accompagner, soit de lui donner un programme.
Alors, il aura de la chance, alors.
Alors, si je l'accompagne, eh bien, je lui fais visiter les monuments intéressants à Orléans, la ville. Et puis, j'essaie de lui faire avoir des contacts avec la population. Si ça l'intéresse, n'est-ce pas? Ça dépend aussi quel genre de personne se trouve en face de moi. Si j'ai un écolier qui a 14-15 ans, les centres d'intérêt sont différents de ceux d'un industriel ou de ceux d'un professeur. Si vous me citez un type particulier de personne, je vous répondrai pour ce type particulier de personne.
Ah, oui.
Je pense que rien n'est... Enfin, si vous voulez, à chaque personne correspond quelque chose qui peut l'intéresser plus, mais que ce qui est monument et ce qui est cité peut intéresser tout le monde. Je le conduirai à la cathédrale, je le conduirai voir la mairie qui est admirable, je le conduirai voir la maison des œuvres que vous n'avez peut-être pas vue,
parce qu'elle est
dans une petite rue qui est tout près de la rue de la République, mais qui est très jolie, tenez, vous l'avez ici. Je lui indiquerai ce recueil qui est de Monsieur Secrétin et qui contient à peu près toutes les choses intéressantes à voir à Orléans. Et c'est comme ça que je procède en général quand j'ai des amis ou des parents qui viennent. Et puis, du point de vue, si c'est un jeune, on peut l'emmener dans une maison de la culture des jeunes pour qu'il se rende compte de ce que sont les jeunes. Si c'est une personne plus âgée, on lui fera visiter des musées. Voilà.
Merci, très bien. Alors, je n'ai que deux questions que vous posez pour l'enregistrement, madame. Quelqu'un frappe à la porte de cette pièce. Qu'est-ce que vous lui dites?
Ah, vous voulez le mot? Eh bien, à la porte de la pièce ou à la porte de l'appartement?
De la pièce.
De la pièce, je dis entrée.
Entrée.
Il est certain que ce n'est pas comme en Afrique du Nord où dans chaque région, on dit un mot différent pour dire entrée. C'est peut-être ça que vous espériez.
C'est ça.
Oui.
Et vous invitez quelqu'un à prendre quelque chose à la maison. Qu'est-ce que vous lui dites pour l'inviter?
Alors, ces formules qui sont conventionnelles ont beaucoup changé depuis la guerre. D'abord, on fait des réceptions différentes, donc on emploie des termes différents. On invitait avant la guerre à prendre le thé. On le fait moins et on fait beaucoup plus de ce que nous appelons des cocktails pour prendre un mot anglais. Alors, comme formule, on va mettre par exemple, tenez, prenez mon cas, je mettrai Baron cocktail, tel jour, telle date, telle heure. Et en dessous, je mettrai RSVP, c'est-à-dire réponse s'il vous plaît, de façon à savoir le nombre de personnes que j'aurai à la réception. Ça, c'est pour une réception assez nombreuse. Ce cocktail tient lieu d'ancienneté et de dîner, si on veut. C'est-à-dire qu'on offre du whisky, vous allez être content, des apéritifs, des jus de fruits, de nombreux, très nombreux sandwichs, des petits fours, des petits gâteaux. Et on garde les gens entre 6h et 9h du soir. Si on veut faire une réception plus particulière, le plus honorable.
Alors madame, on s'est arrêté au moment, je crois, où vous étiez en train de nous
expliquer... De vous donner les formules d'invitation.
Les formules d'invitation, oui. Peut-être vous pouvez...
Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quelle formule? Parce que je vous ai expliqué ce que c'était qu'un cocktail. Il faut recommencer?
Oui, il faut recommencer après les cocktails.
Après les cocktails, alors c'est le dîner.
Le dîner, c'est bon. Ça. Merci, madame.
Alors, l'invitation au dîner se fait de la façon suivante. On met son titre, ou bien Monsieur et Madame X, et vous prie de venir dîner tel jour, telle heure. Dans l'espoir d'une bonne réponse, nous vous prions de croire notre amitié ou quelque chose comme ça. Ou alors simplement, si ce sont des personnes qu'on voit souvent et qu'on connaît bien, on met Monsieur et Madame X, dîner tel jour, telle heure. Et pas de formule de politesse. On en faisait beaucoup avant la guerre et maintenant ça se supprime de plus en plus. Ça n'est pas impoli de mettre simplement recevra à telle heure, recevra tel jour et RSVP, sans aucune formule de politesse. Ceci sur les cartes de visite. Si c'est une lettre, c'est différent. Sur une lettre, vous êtes obligé de mettre une formule de politesse.
Et vous avez parlé au début, madame, de la vie que vous avez menée aux colonies.
Oui, aux ex-colonies, car c'est un mot proscrit.
Vous croyez?
Je crois, oui.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer, pour vous, la grande différence que vous avez trouvée en revenant en France, par exemple? C'est-à-dire, parce que vous avez dit, il y a plusieurs mots, par exemple, pour dire « entrer ».
Oui. Oui, en Afrique du Nord, par exemple, eh bien, selon les régions, on ne dit pas « entrer » avec le même mot. Mais ça, je pense que c'est une question de dialecte. Oui, c'est tout.
Et les formules de politesse dont vous avez parlé tout à l'heure.
Oui.
Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait une différence aux colonies, où vous étiez?
Oui, en Afrique du Nord, par exemple. Alors là, vous voulez parler de la population indigène, de la façon dont la population indigène s'exprime?
Oui.
Oh, bien sûr, il y a un monde de différence.
Oui. Ça m'intéresse beaucoup parce que moi, j'ai fait une partie de la guerre en Afrique aussi.
Ah oui?
J'ai trouvé comme anglais que pour moi, il fallait apprendre une langue tout à fait nouvelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle Pidgin English.
Oui.
Mais pour les Français, quand je suis allé aux colonies françaises, j'ai trouvé que même les indigènes parlaient un français qui était...
Oh oui, ils sont très intelligents, ils apprenaient très bien le français. Ils s'étaient très bien mis au français, en fait. Je crois qu'ils regrettent toute cette chose-là, toute cette culture. Mais la politique s'en est emmêlée.
C'est ça. Et depuis votre retour, mais après la guerre naturellement, est-ce qu'on invite les gens pour dîner ou des cocktails comme auparavant? Est-ce qu'il y a un changement assez grand?
Les cocktails ne se faisaient pas avant la guerre. On faisait des grands dîners. On faisait des soirées. On donnait des tasses de thé. Les femmes recevaient l'après-midi au thé. Si elles voulaient recevoir des ménages, le mari et la femme, on recevait à dîner. Maintenant, on préconise plus de cocktails. Pourquoi? Parce que c'est plus économique et que ça permet de recevoir tout le monde à la fois. Si je reçois 12 personnes à dîner, mon appartement ne peut pas en tenir plus. Mais j'ai reçu 70 personnes à un cocktail. Prenez-vous, c'est surtout ça. Puis alors, c'est tout de même plus économique qu'un cocktail, quoique ça coûte assez cher à cause des alcools, et moins cher qu'un dîner. Alors vous avez beaucoup de personnes qui... avec la difficulté, la vie augmente sans cesse, je trouve plus pratique et plus économique de faire un cocktail. Maintenant, les dîners existent encore et les déjeuners aussi. Mais les déjeuners sont plutôt des déjeuners d'affaires que les hommes donnent entre eux pour des raisons d'affaires. Les dîners se font en ménage chez le particulier. Tandis que le déjeuner se fait souvent, un homme d'affaires invitera d'autres hommes d'affaires dans un restaurant chic. Voilà.
Et pour les femmes, surtout pour les femmes qui s'occupent des travaux, donc des œuvres
ménagers,
que vous avez...
Les
œuvres comme des œuvres sociales dont vous avez parlé. Est-ce qu'il y a des déjeuners...
Non. Ça non, je crois que ça existe en Amérique et même en Angleterre. Les clubs de femmes n'existent pas en France. c'est peut-être dommage, je ne sais pas, puisque je ne peux pas apprécier une chose que je ne connais que de nom. Mais enfin, non, ça n'existe pas en France.
Ça existe aux États-Unis et en Angleterre aussi.
Oui. Alors, non, je crois que les clubs où participent les femmes, à Paris par exemple, ce sont des clubs littéraires peut-être, mais sur le plan province, je ne pense pas. Il y a eu ici, pendant que les Américains tenaient garnison, car il y a peu de temps que les Américains sont partis, il y avait un club franco-américain de femmes, mais qui avait pour but, je pense, d'apprendre aux Américaines le français et de les faire participer un petit peu à la vie de la ville. Ça n'a pas débordé quelque chose de conventionnel. Je ne pense pas que ça n'ait jamais atteint un degré amical vrai.
Alors, merci, madame.